With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alternative Football.
Emma, tu connais le youtubeur Willow ?
Ah ouais, je vois très bien, ouais. Ouais.
Mon fils, la dernière fois, il regardait une de ses vidéos sur YouTube. Donc je me suis mis à côté de lui, j'ai regardé la vidéo et c'est super pertinent ce qu'il propose comme contenu. Hein.
Ouais, ouais, bah c'est une nouvelle approche d'analyse du foot en utilisant des plateformes qui sont un peu moins connues. Donc moi je suis déjà hyper client et puis hyper intéressé par ça. Mais si tu veux, je te le présente, on l'invite et puis on discute un peu de ce qu'il fait.
Ouais, ça me ferait énormément plaisir parce que je suis curieux un petit peu de voir sa ligne de conduite, sa mission et puis ce qu'il entend faire avec sa chaîne.
Eh bah, écoute, c'est parti.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative Football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette.
Bonjour à tous. Bienvenue sur Alternative Football et salut Willow.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ouais, t'inquiète, c'est un vrai plaisir.
Je dis avec nous parce que bien sûr, Edouard est là. Salut,
salut
Edouard.
Salut les gars, salut.
On est très heureux de te recevoir pour un vaste sujet qui va nous occuper aujourd'hui. L'ADN d'Alternative Football, c'est qu'on met les pieds dans le plat. Donc je vais t'adresser la question qu'on avait envie de te poser et sur laquelle on va digresser aujourd'hui. Est-ce que d'autres traitements journalistiques du foot sont encore possibles ?
Ouais, bah ça dépend par rapport à quoi est-ce qu'on considère cette altérité. Si c'est par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, il faut définir ce qu'on voit aujourd'hui. Pour moi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà un traitement numérique, par exemple, qui est assez diffus, existant. Donc, si tu veux inventer encore quelque chose d'autre par rapport à ça, je sais pas, je l'ai pas trouvé. Mais par rapport peut-être au côté mainstream, à ce qui se faisait et ce qui continue à se faire peut-être sur les plateformes les plus mainstream, ouais, carrément, je pense qu'il y a une grosse demande et il y a peut-être une offre de plus en plus forte aussi.
C'est ça ta target, parce que l'idée, c'est que tu as ta chaîne YouTube qui cartonne. Et comment tu en es venu à vouloir créer ta chaîne ?
Il n'y a pas d'histoire qui sous-tend le tout. En mode, je savais qu'il y avait cette opportunité dans le monde du foot et c'est la raison pour laquelle c'est plus au gré des...
C'est un kiff en fait quand tu t'es dit, voilà.
Bah, ouais, c'est ça. Bah, en gros, en fait, quand je l'ai lancé au tout début, c'était fin de mes études et je voulais juste faire quelque chose d'autre que le monde du travail classique dans lequel j'étais, parce que ma dernière année d'études, c'était en alternance, donc j'étais dans une boîte normale, entre guillemets.
T'as fait quoi comme études ?
J'ai fait Sciences Po.
D'accord. Et quoi comme...
Mon cursus de spécialisation de master, c'était ressources humaines. Okay. Donc, j'ai fait ma dernière année en travaillant en RH dans une boîte, quoi, à Ubisoft. Et bon, je voulais faire autre chose. C'était la fin de mes études, c'était l'opportunité. De toute manière, j'avais un filet de sécurité, les études. Je pouvais toujours retrouver un job si j'en voulais un. Donc, la chaîne, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et je savais que bah, ça allait me faire kiffer d'au moins être libre. Au moins, pas avoir de contraintes. Pas quelqu'un qui me dit, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Et à la base, je l'ai lancé sur FIFA, sur un jeu vidéo. J'ai fait les 6 premiers mois de la chaîne, ça n'a pas rien à voir avec le foot, mais c'était sur... je faisais des tutos sur FIFA. J'étais très inspiré de Bruce Granek, etc.
D'accord.
Donc, c'était ça un peu mon entrée dans le monde de YouTube. Et bon, au bout de 6 mois, j'ai basculé sur autre chose. Et pendant un petit moment, ça a été plus centré histoire du foot. Maintenant, il y a toujours des petits détours par l'histoire, par des thèmes un peu plus originaux. Je sais pas, récemment, je fais une vidéo « Dans quel pays faut-il finir sa carrière ?» ou « La Coupe du Monde 2002, réexplorer, etc.
Ouais. »
Mais c'est quand même un peu plus centré actu maintenant et peut-être un peu plus proche de ce qu'on imagine être du journalisme, c'est-à-dire plus proche de l'actualité.
Justement, tu te définis comme un journaliste ?
Non, j'ai pas fait d'études de journalisme. Honnêtement, j'essaie juste de faire du contenu que j'aimerais regarder moi. Donc ça veut dire peut-être que ça va tendre vers peut-être qu'il y a plein de journalistes qui s'arrachent les cheveux en écoutant ça, mais peut-être que de mon point de vue, ça va tendre vers du journalisme parce que c'est plus du contenu informatif que purement divertissant. Mais c'est le contenu que moi j'aurais envie de regarder sur le foot et c'est ce que j'essaie de produire. Mais c'est pas journaliste, c'est juste peut-être youtubeur ou producteur de contenu.
Donc ça veut dire que quand tu décides de faire pivoter ta chaîne, enfin le contenu de ta chaîne, c'est que tu n'arrives pas à trouver dans l'offre proposée par les grandes chaînes un contenu qui te satisfaisait.
Peut-être que a posteriori, c'est ce que je peux dire. Mais sur le moment où j'ai pivoté, c'est simplement que j'avais envie de faire des vidéos que je prenais du plaisir à faire. Donc tu vois, j'étais arrivé un petit peu au bout de FIFA, etc. J'avais fait une vidéo sur les joueurs de légende que j'aimerais voir dans le prochain FIFA, parce qu'ils ont tout un délire autour des joueurs, les icônes, ils appellent ça, etc. Et donc, pour cette vidéo, bah, j'avais passé plein de temps à me renseigner sur Internet, lire des trucs, l'histoire. Et en fait, simplement le fait de baigner dans ces recherches-là, ça m'a fait kiffer, j'ai adoré ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, il faut que je fasse plus de vidéos comme ça. Et FIFA, bah, c'est pas ça le cœur de mon intérêt, c'est plus la matière football, quoi.
Le contenu, donc, c'est toi qui vas le chercher. Enfin, l'histoire, c'est toi qui la cherches. Ou alors tu sondes ta communauté pour savoir quel contenu ils aimeraient...
Pas trop, honnêtement.
Voir ou lire.
Non, honnêtement, pas trop.
Ça part de toi.
Oui.
Voilà. Donc, c'est pour ça que tu prends du plaisir.
Ouais, c'est sûr.
Et tu te fiches, excuse-moi de te couper encore, parce que. Tu te fiches du coup que l'histoire de 1950, de la Machina, de Stefano ou quoi que ce soit, là, ça puisse intéresser ou pas, mais tu te dis, moi en tout cas, ça me plaît, donc je vais faire un truc de qualité et ça plaira à qui ça plaira.
Après, c'est une question de calcul. Moi, j'aime bien aussi faire des vidéos qui marchent beaucoup, qui font des vues. Enfin, c'est une partie de la motivation. Ça entretient la motivation.
Bon, après,
et donc,
tu sais
équilibrer.
Tu sais les sujets qu'il faut traiter. Hein. Là,
voilà,
Ballon d'Or, tu sais
sûr.
Qu'il va y avoir de l'audience. Après, la Machina de
River Plate. Ouais.
Là, c'est pas.
Bien sûr,
d'ailleurs, des parents, tu vas avoir des puristes.
Ouais, carrément. Et. C'est un plaisir de le faire. La vidéo, elle est encore en bonne... Enfin, si tu vas sur ma chaîne aujourd'hui, tu vas sur les playlists que j'ai constituées. Bon, il y a les dernières vidéos qui ressortent. Après, tu as une autre playlist sur mes sujets un peu originaux. Et vers la fin, j'ai fait une playlist mes meilleures vidéos. Et celle-ci est en bonne posture. Et donc, le fait d'avoir cette vidéo un peu, effectivement, originale, etc. Je veux dire que, bon, la raison numéro une, c'est que ça me faisait kiffer de le faire. Il y avait plein de trucs trop stylés. Le fait de pouvoir se repencher et retrouver des images de l'époque, bref, trop bien. Et aussi, honnêtement, même d'un point de vue, je sais pas, business, si tu considères l'aspect business de la chaîne, c'est good business de faire des vidéos qui vont plaire aux puristes, qui aident à différencier ta chaîne, qui donnent une marque riche, quali, etc. Même si ça va faire moins de vues. Et bon, mine de rien, la Machina, ça fait quasiment 70 000 vues, ce qui est pas si éloigné de ma moyenne. Donc, ça veut dire que ça a eu un vrai succès aussi.
C'est quoi ta moyenne?
Ah, c'est dur à dire, mais en ce moment, je dirais que ça doit être... entre 60 et 100 000, peut-être.
D'accord.
80 000, un truc comme ça.
Okay.
Alternative football.
Toi, t'as pas eu de retour négatif, t'as pas eu de journalistes qui ont, par exemple, critiqué ton travail parce que tu viens sur un nouveau canal. Et je dis ça, c'est absolument pas péjoratif vis-à-vis des journalistes. On est à Sopress ici. L'idée, c'est de dire que les journalistes, ils ont effectivement fait des études qui les préparent à ce métier. T'as un corporatisme du journalisme qui est assez fort. C'est des gens qui sont fiers de leur métier. Ils ont vu cette vague de nouveaux commentateurs, analystes du football arriver via les réseaux. On va y revenir un petit peu sur. Il y a pas que YouTube, bien sûr, hein, sur les autres choses. T'as pas eu de malveillance en tout cas de la part de ce milieu-là, en tout cas tu l'as pas encore vécu, tu l'as pas vécu.
Ouais, c'est ça. Alors, okay. Pas à ma connaissance. Après, tout ce que tu dis me semble assez pertinent. J'imagine qu'effectivement, enfin théoriquement, dans un milieu qui est assez bien défendu, où il existait auparavant des barrières à l'entrée qui aujourd'hui sont moins fortes, est-ce qu'il peut y avoir une forme de ressentiment? Ça me semblerait logique, donc peut-être, ouais, sans doute. Maintenant, moi, j'ai plus eu de bons rapports. Par exemple, j'ai commenté des matchs pour France TV Sports sur leur plateforme numérique. Ils m'ont invité chez eux, ça s'est fait, c'était trop bien. Tous les contacts que j'ai, c'était sur Canal l'autre jour, sur leur Canal Football Club numérique, quoi, sur Twitch. Bon, j'ai jamais ressenti vraiment de frustration, non, pas vraiment. Ouais. Donc, non.
Je pense que ça a trait aussi à l'époque, c'est-à-dire que moi, pour avoir la chance de travailler avec différents médias, je pense que
tout début, à l'émergence, il y avait beaucoup de méfiance et beaucoup de défiance. Et aujourd'hui, parce que c'est mieux compris, parce que aussi les rédactions se renouvellent, ils comprennent, ils acceptent et justement, ils ont envie d'être accompagnés par des gens du cru et de ces plateformes-là. Donc, c'est aussi, je pense, hyper valorisant pour le métier et pour les gens qui viennent de ces univers-là parce que on découvre qu'il y a une expertise YouTube, une expertise Twitch, etc. Et ça m'amène d'ailleurs à une question relativement naturelle. Tu mentionnes Twitch. Toi, aujourd'hui, ta plateforme, c'est YouTube. C'est, ouais. C'est là où tu t'exprimes. Est-ce que tu as une réflexion sur diversifier le contenu pour aller sur d'autres plateformes, faire plus de live sur Twitch, aller un peu sur Insta, sur TikTok, je ne sais pas. Ou est-ce que pour l'instant, YouTube, ça reste pour toi le meilleur endroit pour s'exprimer et c'est là où tu es le plus confortable?
Ouais, YouTube, c'est le meilleur.
Ouais.
Je n'ai pas vraiment d'autres envies et d'autres pistes. Déjà, je suis pas trop quelqu'un des réseaux sociaux à la base, donc tu vois, genre j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte TikTok. Avant de me mettre sur YouTube, j'avais pas de compte Twitter. J'allais sur Facebook pour parler à mes potes. Enfin, j'ai jamais trop été dans cette vibe-là. Et je pense que aussi, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté insouciance, je pense que je me serais mis beaucoup plus de barrières si je connaissais mieux l'écosystème YouTube. Tu sais, je vois tel créateur, ah ouais, il fait tant de vues, il a tel matos, c'est comme ça qu'il fait. En fait, parfois, plus tu connais un environnement, plus ça t'inhibe. Et je pense que ma désinhibition, elle venait du fait que je connaissais pas, en fait.
Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux aussi, et moi, c'était une forme de protection. Parce qu'effectivement, quand tu fais trop attention à ce que les autres vont dire, parce que tu sais que tu peux pas plaire à tout le monde, et même si tu dis, on s'en fout, on peut pas plaire à tout le monde, on a envie de plaire à tout le monde. Donc, tu es une forme de protection. Et c'est pour ça que je dis, maintenant que t'es connu, est-ce que tu continues à garder ta ligne de conduite, cette insouciance calculée, maîtrisée, ou alors tu vas dire, tu vas faire comme la plupart des managers, comment on appelle, des community managers, pour que tu aies plus de vues, mets-toi sur les réseaux, fais Instagram, ou tu gardes ta ligne de conduite?
Non, parce que déjà, le format YouTube, c'est de très loin le meilleur pour moi. J'aurais pas grand-chose à gagner sur Insta, tu vois. On parlait de YouTube, la possibilité de changer de plateforme et de terrain de jeu. Moi, ce que j'aime bien sur YouTube, c'est j'allume ma caméra, si je veux, je parle 20, 30, 40 minutes. Les gens, ils seront contents de regarder ça. C'est pour ça qu'ils se sont connectés. Donc, trop bien. Personne m'interrompt. C'est pas une référence à ce qui se passe là. Pas du tout. C'est juste que parfois, tu sais, j'ai
été. Je challenge un peu pour voir un peu.
Non, mais j'ai été sur d'autres plateformes, tu vois, genre des trucs de débat, etc., où on est 4, 5.
C'est dur.
En fait, tu peux pas parler plus de 30 secondes d'affilée. Donc, c'est pas parce que j'adore entendre le son de ma voix, mais c'est juste qu'en 30 secondes, tu peux pas développer d'argumentaire. Moi, j'aime. Et par exemple, sur Twitter, il y a plein de moments où je suis là, genre, ouais, j'aimerais bien dire ça, ça et ça du match, mais en fait, il va falloir faire 8 tweets et ça va pas être intéressant. Ça fonctionne pas sur la plateforme.
Ça va être noyé.
Sur YouTube, boum, je peux allumer, je peux pas. Parler 15 minutes d'affilée, vraiment aller au fond de la réflexion. Et les gens qui commentent, les gens qui réagissent, ils ont vu au moins une portion significative de ce que tu as dit. Je trouve que c'est un format très puissant, très très puissant pour ça. Et j'ai pas vraiment d'autres ambitions, d'autres plateformes. Je suis content de ce que j'ai, honnêtement. Mon objectif dans la vie, là, c'est juste continuer à voir ce que j'ai et prendre du plaisir, avoir une vie perso épanouie aussi.
Voilà. Le fait de faire ce métier-là te permet d'équilibrer les deux.
Absolument.
Et tu as dit deux fois, effectivement, YouTube, c'est la meilleure plateforme. C'est la meilleure parce que, clairement, tu as le temps de développer et tu n'as pas de pression de devoir être interrompu, répondre, etc.
C'est ça.
Ça me fait penser d'ailleurs, effectivement, à l'une de tes vidéos sur Messi, je crois, que j'ai regardé en préparant un peu l'émission. Tu dis, on en a peut-être pour 10 minutes et finalement, tu as fait 20 minutes. Et c'est cette liberté, en fait, et ce confort de pouvoir étayer le propos qui fait que tu es bien sur YouTube.
Ouais, je trouve qu'il y a deux grosses forces du format YouTube et donc du format vidéo. C'est le fait d'être extrêmement libre, de pouvoir prendre et parler pendant longtemps, donc développer l'argumentaire à fond. Et deuxièmement, c'est la possibilité de l'enrichir visuellement. Donc ajouter des images, ajouter même au-delà du visuel des petits sons. Tu peux vraiment faire 20, 15, 20 minutes très riches et denses. Alors que par exemple sur Twitch, j'ai souvent eu la frustration de, moi tu fais un live pendant 3 heures, c'est sympa, ça permet d'accéder à une certaine proximité, mais à la fin, le live, moi je le regarderai pas en fait, tu vois. Genre, alors qu'une vidéo que j'ai fait, ouais, franchement, je la regarderai 15-20 minutes, et l'action est parfaitement placée, enfin tu sais, j'ai fait certaines vidéos, elles m'ont pris, elles font genre 10-15 minutes, certaines vidéos, elles m'ont pris 30-40 heures à faire, tu vois. Genre les épisodes de Objectif Coupe du Monde ou Eurotour, avec des poèmes en intro, de la musique particulière, genre des images qui fondent et tout. Bon, ça, c'est vraiment une vraie œuvre, quoi, tu vois, la vidéo. Et bon, je pense qu'on vit dans un écosystème audiovisuel ultra puissant Et YouTube, ça permet d'à peu près tout combiner.
Et d'avoir une post-prod qui est chiadée. Donc, t'es limite sur un travail de documentaliste où une fois que t'as fait ta recherche, t'as le moment de traitement d'information qui est fait de manière froide, c'est-à-dire que tu te poses face caméra, tu fais ton truc, et après, tu fais beaucoup de post-prod, beaucoup de traitement pour avoir un contenu de qualité. Qui d'ailleurs, enfin, qui est en soi l'opposé de Twitch, qui est effectivement dans le live, dans le contenu brut, tu vois, sans effet, si ce n'est les incrustes. Et du coup, tu nous parles de la manière dont tu travailles, mais est-ce que si on élargit le spectre, est-ce qu'il y a des règles un peu tacites du traitement du foot sur YouTube, des règles à suivre pour réussir, si tu vois, un mec se lance demain, en tout cas respecter ?
La seule règle pour moi sur YouTube, c'est qu'il faut qu'il y ait du contenu qui apporte de la value aux gens, quoi. Donc, il faut que ce soit assez riche, mais il y a plusieurs manières pour que ce soit riche, tu vois. Ça peut être riche parce que tu proposes de l'information purement intéressante. Ça peut être riche parce que ta manière d'animer cette information est intéressante. Je pense que les gens aiment bien le format YouTube parce que ça permet d'accéder à une personne, tu vois. Et si c'est bien présenté, il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner. Donc, le conseil que je donnerais, honnêtement, c'est surtout d'avoir soi-même des choses intéressantes à dire et de savoir les dire de manière intéressante. Ça, c'est le truc numéro un. Tout le reste, tous les ajustements à la marge, toutes les réflexions algorithmiques, toutes les questions d'optimisation, ça c'est 10%. Et 90%, c'est qui t'es et est-ce que t'es capable d'être intéressant.
Alternative football.
Ce milieu-là, quand tu parles de foot, enfin moi je connais des gens qui sont dans le foot, je les ai vus débuter. Quelques mois plus tard, tu les vois, ils sont complètement fous, c'est plus les mêmes parce qu'ils passent à la télé ou parce qu'ils entendent leur nom ou parce que la boulangère les reconnaît, c'est des fous. Donc, tu aurais pu attraper cette maladie qui est, mais vraiment, qui peut être mortelle, hein, cette maladie de la, voilà, l'égotique, tu vois, ou l'égotite. Il faut tout prix que je sois reconnu, je sois numéro un dans mon truc.
C'est intéressant, je pense qu'on a tous de l'ego. Et
non, il en faut.
Et honnêtement, je te mentirais si je te disais que ça me fait pas plaisir d'être là, par exemple, numéro 1 sur ma plateforme. Sur mon créneau, c'est kiffant d'être numéro 1. Mais c'est aussi, je sais pourquoi c'est le cas, c'est aussi parce que j'étais quasiment le premier à arriver. Ça veut pas dire que je suis la plus grande personne de l'histoire de l'humanité, mais je suis content d'être numéro 1 et parfois c'est motivant. Mais il faut l'utiliser pour les bonnes raisons aussi, tu vois. Genre, si tu prends cette satisfaction et tu l'utilises pour l'étendre à toutes les autres sphères de ta vie et devenir quelqu'un que t'es pas, évidemment tu te trompes. Mais si tu prends cette satisfaction pour continuer à te motiver à produire,
et
à
rester,
être
et rester
sur ce
numéro
terrain, et rester numéro 1, franchement, l'idée de rester numéro 1, c'est quelque chose qui me motive dans les moments où je suis moins motivé. Je peux au moins me rabattre sur ça. Je me dis, bon... j'en ai un peu marre là sur cette semaine, j'ai pas ultra envie de travailler, je préférerais faire autre chose, mais j'ai pas envie de perdre
envie de rester
donc c'est juste pour dire que de l'ego, je pense que j'en ai. Ça veut pas dire que j'en fais le cœur de mon existence et que tout change, quoi.
J'aime beaucoup ce qu'a dit Edouard, parce que t'as un côté effectivement très grisant dans le foot, tu vois, parce que tu commences à évoluer dans ce milieu-là, tu commences à rencontrer des joueurs, des journalistes que tu voyais à la télé, tu vois. Moi, je me rappelle dans mon expérience perso, des journalistes, par exemple, que j'ai vu commencer, qui le jour où ils signent un contrat, tu vois, moi c'est que du bonus maintenant. Le jour où ils signent un contrat d'image avec la chaîne et que donc ils sont payés par la chaîne pour que leur image soit utilisée, ça change complètement de perspective. Donc c'est très grisant, et je pense que pour moi, tu as mis le doigt sur ce qui est essentiel dans le foot et dans le reste, c'est que avoir de l'ego et accepter la reconnaissance quand c'est pertinent par rapport au travail que tu as effectué, je pense que c'est normal et il faut s'en nourrir, et c'est ça effectivement qui te pose au reste. Le danger, effectivement, c'est de considérer, parce que tu as réussi dans un silo qui a été, où tu as mis du travail, tu as été pertinent, ça veut dire que tu mérites de l'étendre à chaque aspect de ta vie. Je pense que cette conscience-là, elle est importante.
Très bien, totalement d'accord avec ça. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Par rapport au côté grisant de l'écosystème foot, je dirais que je le vis sans vraiment le vivre non plus, parce que honnêtement, tu vois, des événements comme ça, c'est pas ma norme la plupart du temps. 95% du temps, je suis juste dans mon bureau face à une caméra, en fait. Donc j'ai pas trop l'impression que ce soit si spécial que ça. Et je pense que quelque part, le côté aussi, la réussite numérique, c'est la réussite numérique, tu vois. Genre, je suis pas tous les jours en train d'entrer à Old Trafford, quoi.
Ouais.
Je lis les commentaires de ma chaîne, il y a plein de gens qui regardent, je vois des chiffres, mais parfois c'est difficile de se rendre compte que c'est vraiment vrai, tu vois. Genre, je me dis pas qu'il y a autant de personnes qui regardent vraiment, je vois surtout des chiffres. Enfin, le passage à la réalité, s'en rendre compte, c'est plus difficile, et ça, je dirais que ça a fait que tu deviens pas fou, okay. Pour reprendre les propos d'Edouard.
Le mainstream, je mentionnais France Télé avec qui tu as collaboré, Canal, passer de l'autre côté, c'est-à-dire travailler pour une chaîne, devenir analyste football sur une chaîne, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'intéresserait, à laquelle tu aspires, ou pas du tout? Toi, encore une fois, tu maintiens que YouTube, c'est là où tu aimes être, et pour l'instant, il n'y a pas d'autre...
C'est sûr que ça pourra jamais être ça exclusivement.
Ok.
Le faire par-ci, par-là, ouais, pourquoi pas. En ce moment, tu sais, j'ai un truc avec Free, qui a une partie de droit de la Ligue 1. Donc, ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça, c'est quand même un petit bénéfice, un bonus de mon taf. C'est d'avoir ces opportunités à côté pour voir un peu à quoi ressemble, tu vois, même le fait d'être là, voir un peu à quoi ressemble ce vrai écosystème, tu vois, en dehors de mon bureau et de ma chambre, entre guillemets. Ça, c'est kiffant d'avoir ces petites passerelles. Maintenant, la liberté que j'ai sur YouTube, le plaisir que je prends sur la plateforme, c'est supérieur à tout le reste. Donc, ça pourra jamais, je pourrais jamais être le journaliste exclusif d'une chaîne, sans salarié. Non, c'est pas comme ça que je vois ma vie.
Et donc, tu te vois d'abord comme un YouTuber ou comme un analyste de foot? Est-ce que demain, on peut imaginer Willow qui développe une chaîne sur l'histoire? Enfin, tu vois, ou sur l'économie, ou sur...
Ouais. Parce que j'aime beaucoup la plateforme et je m'intéresse à plein de choses au-delà du foot. Donc, carrément. Donc, de ce point de vue-là, peut-être plus YouTuber, mais en même temps, peut-être plus analyste foot parce que... Il n'y a pas que YouTube comme plateforme, j'étais sur Twitch cet été, même si je préfère YouTube, il y a aussi d'autres manières de transmettre son message. Honnêtement, les deux, je pense les deux.
Ton lien par rapport au foot, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené au foot? Est-ce que t'as fait du foot? Est-ce que t'as eu des parents, un frère, une sœur, un voisin? Ou quand tu m'as vu jouer au parc, qu'est-ce qui t'a... Non, je sais pas.
On l'attendait,
ça. Au vélodrome, parce que ouais, t'as 27 ans, c'est ça?
Ouais.
Ouais, putain, ouais, peut-être au vélodrome.
Tu l'as vu jouer, Edouard Cissé, quand même?
Ouais, bien sûr.
Non,
bien sûr.
Il a quand je lui ai envoyé un mail, il a dû se dire, attends...
Kamel, il t'a pas vu jouer. Hein.
Bah, c'est normal, c'est un Lyonnais, lui. Il a refusé. Non, mais ouais, c'est quoi ton histoire par rapport à ton lien?
J'ai fait récemment une vidéo sur la Coupe du Monde 2002. Ça a été le premier match que j'ai vu de ma vie. C'était France-Uruguay, avec la barre transversale de Trezeguet, etc.
Ah, c'est toi le chat noir, alors?
C'est grave.
Oh, putain.
Mais par contre, supporter lyonnais, pas si chat noir que ça, parce que c'était le début de la grande période de gloire.
Ah, donc t'es supporter de l'OL?
Ah ouais, bien sûr.
Ah bah,
et donc, récemment, t'as été habitué à avoir du caviar. Parce que là, t'es habitué du...
Carrément, je veux te dire, encore plus que les années de champion de France, les deux premiers matchs que je suis allé voir au stade de ma vie, c'était avec le PAC Ligue des Champions 2002-2003. Je suis allé voir Lyon-Rosenborg, ça c'est mon premier match au stade, on gagne 5-0. Doublé de Vérel, peut-être Dorasso, Anderson, Louis Ndoula, peut-être carrière. Et deuxième match, c'est Lyon-Inter. 3-3, qui est élu match de l'année France Football. Un match incroyable, renversement de situation sur renversement de situation. Je pense doublé de Sonny Anderson, pas sûr. Mais bref, ça a été mon introduction au foot dans un gerland bouillant d'une équipe championne de France qui fait deux grands matchs de Coupe d'Europe. C'était trop cool et après, ouais, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était vraiment le début.
T'es nostalgique de gerland?
Je sais pas, j'y ai tellement été et j'ai tellement été dans des moments difficiles, pas nécessairement au niveau sportif, mais niveau température, tu vois, genre ça caille à Gerland parfois. Donc j'ai aussi plein de mauvais souvenirs entre guillemets, mais pour sûr, Gerland c'était fou dans le sens un stade en centre-ville où tu peux aller, tu peux prendre un verre avec tes potes, aller au stade, revenir, prendre, tu sais, je prenais avec mon père, on prenait le métro, en 20 minutes on y était, j'y allais avec des potes, on y allait en marchant. Par rapport à aujourd'hui, le parc OL où c'est une navette, quand le match est fini, t'attends 30 minutes que la navette reparte et tout, bon ça c'est un autre délire quoi. Par contre le stade est magnifique et en tant que supporter lyonnais, je suis aussi content d'avoir quelque chose qui favorise la pérennité du club. Tu vois, je le lis de deux manières différentes. Le plaisir pur et dur de l'instant, il est un peu moins fort, parce qu'à Gerland, c'était cool d'y accéder facilement. Mais je me dis que c'est une bonne chose pour le club, donc fondamentalement, c'est une bonne chose pour moi.
Quand tu es supporter, tu es toujours tiraillé entre l'histoire et le progrès. Quoi. C'est-à-dire que tu vois, t'es attaché à ton stade.
C'est bien dit, c'est mieux dit que...
Non, mais enfin, mais il faut aussi que le club progresse. Et,
voilà,
et
c'est titre à Gerland, après, c'est surtout ça, quoi.
Mais maintenant, c'est le rugby à Gerland, maintenant. C'est le loup, c'est ça. Donc il y a encore ça ravira Thomas qui est un...
Ah ouais, de manière c'est monument historique, donc ça peut pas être c'est pour ça aussi que ça pouvait pas être étendu
détruit
agrandi.
Je réélargit un petit peu le spectre. Donc on parlait en introduction d'autres traitements journalistiques. L'analyse qui est peut-être un peu réductrice qu'on fait, c'est que on est quand même sur un marché de l'analyse football qui est hyper saturé. Il y a beaucoup de plateformes. En plus de ça, tu as les médias historiques et mainstream. Donc tu as beaucoup de bruit, d'autant que c'est amplifié par le fait que via certains réseaux, aujourd'hui, tout le monde donne son avis. On parlait des commentaires YouTube, mais bon, tu vois, il y a une plateforme qui symbolise un petit peu ça, c'est Twitter, où tout le monde voilà, peut commenter de manière pertinente ou pas. Dans ce bruit-là, comment on se démarque? Comment on arrive à garder une ligne éditoriale, quelque chose que les gens peuvent identifier?
Bonne question. Je dirais que aussi, si on doit être totalement honnête sur la réflexion, il y a, c'est vrai, une profusion d'avis et d'offres, mais la chance de quelqu'un qui veut faire ça, c'est qu'il y a aussi une énorme demande, tu vois. Il y a tellement de gens qui kiffent le foot que finalement, moi, je vois aussi pas mal de gens qui en vivent sans nécessairement trop se démarquer, tu vois, juste en surfant sur le fait que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui adorent ça. Donc, naturellement, tu peux trouver une audience. Et peut-être que faire une audience sur le foot, c'était peut-être moins difficile, tu vois. Bon, après, si quelqu'un devait vraiment aujourd'hui se démarquer, peut-être que trouver des points d'entrée un peu moins usités, ça peut être quelque chose. Par exemple, faire un média un peu ou une chaîne un peu spécifique à un club, tu vois. Je vois que, bon, il faut avoir un club qui a une certaine audience. Mais peut-être si tu fais une chaîne uniquement dédiée à l'OL et que tu deviens un peu le YouTuber ou la voix de référence sur le club, ouais. Alors qu'il n'y en a peut-être pas nécessairement encore, bah ça peut être, tu vois, une piste d'entrée.
Tu y as pensé?
Ouais, mais...
OL TV, ça existe toujours? Ou ça a été...
OL TV, ça existe encore. Ouais, en fait, j'y pense, c'est grave marrant parce que j'y pense sur nos bons matchs, je suis là. Ah ouais, il faudrait que je fasse une chaîne uniquement OL, genre après Lyon, Sparta, Prague, je suis là. Et puis après Lyon-Nice, trois jours plus tard, je suis là. Putain, heureusement que j'ai pas une chaîne uniquement OL, genre je m'arracherai les cheveux constamment.
Voilà, et quand t'es supporter à fond,
ouais, à fond.
Tu râles après les défaites,
ouais.
T'es comme mon acolyte. C'est-à-dire qu'après une défaite, le lendemain, ça sert à rien.
Perd jamais.
On est beaucoup de personnes autour de moi fans d'une certaine équipe.
Ouais, c'est devenu moins intense que ça maintenant. Parce que maintenant, comme je vis du foot, j'ai aussi...
Tu prends du recul?
Ouais, de ouf. Y a d'autres choses qui m'intéressent dans le foot maintenant que Lyon purement.
Ouais, il y a un truc qui, moi, m'interpelle sur... et tu m'excuseras de te mettre dans une catégorie, mais sur ces nouveaux analystes, en tout cas qui viennent de nouveaux canaux, qui ne sont pas forcément de formation journalistique, c'est que tu as le droit d'être supporter d'une équipe. Je m'explique. Je pense aux journalistes d'avant. Tu vois, je sais pas quelle est ton expérience, Edouard, mais les mecs qui t'interviewaient à l'époque de l'équipe du Parisien, etc. Bon, le Parisien, c'est différent parce que c'est un journal régional. Mais tu vois que le journaliste de l'équipe dise ouvertement « je suis supporter de ce club-là », c'était forcément mal reçu parce que forcément, il peut pas être objectif, il est pas capable de parler des choses. Je sais pas ce que Maxime en pense. Alors qu'aujourd'hui, voilà, moi, je regarde ta chaîne, je sais que tu es supporter de Lyon, tu fais une vidéo sur Messi, je la consomme quand même en disant il y a de la pertinence. Je pense, j'essaie de prendre d'autres exemples, sur Winamax, Sofiane par exemple, qui est aussi supporter lyonnais connu et reconnu, ouais. Il est capable de te donner de l'analyse sur d'autres matchs et tu vas quand même.
Et pas qu'un peu, mais.
Ouais, pas qu'un peu, tu vois. Et tu vas quand même consommer, tu vas dire ouais, c'est pertinent, il y a de l'idée. Et on a l'impression que notre génération, enfin la génération qui arrive, accepte beaucoup plus ça, le côté ouais, je suis partisan, mais je suis capable d'être objectif.
Ouais, effectivement, bah, je saurais pas exactement l'expliquer, mais je me doute qu'il y a derrière cette acceptation renforcée le fait que il y a une sorte de déconnexion de la nouvelle génération, nouvelle audience, et même de nous à travers notre évolution, avec des médias qui sont un peu inauthentiques, tu vois, où on prétend être objectif, mais qui te disent pas vraiment les choses. Il y a presque une certaine forme de malhonnêteté dans le fait que on sait pas lui s'il est supporter de telle équipe ou telle équipe, parce que du coup, tu te sens un peu potentiellement manipulé. Il y a moins de confiance, quoi. Mais je pense que ce lien de confiance qui est moins fort sur les réseaux classiques par rapport aux nouveaux réseaux, c'est que il y a eu moins un rapport direct avec son audience, tu vois. Genre, moi demain, je peux parler à tel gars dans les commentaires, je peux. Le lien, comme il est plus fort, il repose davantage sur cette relation de confiance, et dire pour qui, enfin, quel est ton club, c'est juste la suite logique de cette relation de confiance. Tout le monde, quasiment, vient au foot à travers un club. Quasiment. si tu le dévoiles pas, c'est bizarre. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Bref. Donc, ça me semble être quelque chose d'assez logique. Et je peux comprendre peut-être le parti pris de certains de ne pas le faire parce que tu peux dire que tu te limites une partie de ton audience, etc. Mais ça, je pense que c'est mésestimer la maturité de la plupart des gens qui suivent. Enfin, tu vois, tout le monde sait que X supporte un club. Autant savoir qui c'est et puis on en finit, quoi.
Alternative football.
Dans quelle mesure, toi, tu dirais que ton arrivée, celle des médias sociaux, encore une fois, si le terme n'est pas très heureux, je m'en excuse, mais ces nouveaux médias et ces nouveaux analystes, a eu un impact sur le paysage journalistique sportif de manière générale? Est-ce que toi, tu vois d'autres choses que vous avez apportées ou changées?
Carrément. Par exemple, aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe, tu vois beaucoup plus d'articles tactiques. Il y a vraiment une sorte de ligne éditoriale qui s'est développée autour de ça. Dan Perez, mais entre autres, ouais. Il y en a vraiment plein. Et ça, je pense que c'est carrément quelque chose qui a été apporté par les nouveaux médias. Parce qu'avant, il n'y avait peut-être pas la preuve qu'il existait une demande pour ce type d'article. Aujourd'hui, alors moi, mais surtout d'autres sur le pur volet tactique l'ont montré. Des podcasts comme Vue du Banc, dont je parle régulièrement. Ouais. Plein d'autres personnes qui font des trucs tactiques super aboutis. Ils ont prouvé que cette demande existait, que c'était une des manières de suivre le football et de traiter le football qui avait beaucoup d'avenir aussi. Je pense qu'en France, on avait peut-être un petit retard structurel là-dessus par rapport à d'autres pays. En Angleterre, où le réflexe d'analyse d'après-match, c'est plus d'aller sur tableau, d'analyser les images en elles-mêmes et de parler jeu. En France, peut-être que le traitement footballistique, il était plus orienté gens que jeu.
Opinion.
Les opinions, le côté un peu sensationnaliste. Voilà, alors que maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel sur le jeu.
Je suis entièrement d'accord avec toi, et dans mon métier et dans notre métier, c'est une tendance qui se confirme, puisque on a aujourd'hui, tu mentionnais Dan Perez de l'équipe, mais on a aujourd'hui de plus en plus de clients médias qui nous demandent de pouvoir utiliser les outils qu'utilisent les clubs pro. Et sans trahir de secret, tu vois, les médias dont on parle, l'équipe par exemple, je sais qu'ils ont accès à des logiciels qui sont habituellement utilisés par les staffs.
Ouais, moi aussi d'ailleurs, j'utilise Instat,
Wisecout.
T'as investi dans Wisecout?
Wisecout, ouais, parce que c'était beaucoup moins cher qu'Instat. Ouais. Et Instat, j'ai passé un deal et je les mets en description de mes vidéos. Et comme ça, j'ai Instat. Parce que sinon, c'est genre 3000 euros par an.
Ouais, c'est
comme ça.
Ouais. Bah, c'est good.
Ouais, grave, j'adore.
Et donc ça, c'est une vraie tendance qui se vérifie et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça a été généré par effectivement cette mouvance de tacticiens qui viennent du monde des médias et des nouveaux médias qui imposent un petit peu ça parce qu'on se rend compte qu'il y a une audience et que les gens sont intéressés par la tactique. La difficulté, je pense, c'est encore une fois de parler de langage et comment tu fais le lien entre quelque chose de très, très pointu tactiquement et tu le ressors pour que l'audience puisse l'appréhender. Et le challenge est là. Mais t'as encore une fois...
La vidéo, c'est pas mal pour ça. Voilà. YouTube, c'est pas mal pour ça.
Ouais. Ouais.
La valeur ajoutée de la tactique et du jeu, ça a été apporté aussi par les consultants, en fin de compte, d'où l'utilité d'un consultant. À l'époque, il y a quoi, une dizaine d'années, le consultant, il ramenait quoi, son CV? Ok, il a gagné un titre.
Ouais, et l'anecdote de vestiaire, j'ai joué avec lui, il était à côté de moi, il avait des chaussettes roses. Ouais.
Sauf que ça a lassé. Et en même temps, maintenant, on va chercher des consultants qui sont tactiques, qui sont dans la tactique. Et du coup, c'est ce que... Enfin, moi, j'ai fait des médias où, effectivement, sitôt que j'avais le malheur de parler un peu tactique... On me reprenait pour dire, on perd l'audience. On va perdre l'audience, mais gentiment, hein, c'était gentil.
Ouais, bien sûr,
sauf que maintenant, on nous encourage à parler tactique.
Ouais, je vois sur Amazon, Mathieu Bonnemer, genre...
Et c'est un vrai plaisir, parce qu'au moins, c'est une valeur ajoutée. Dire que, alors ça, je chambre un peu, mais dire qu'il fait beau et que quand l'herbe est mouillée, le ballon y fuse, tout le monde peut le dire. Par contre, expliquer pourquoi cette action, pourquoi l'équipe elle est scindée en deux, ça c'est pertinent et c'est là notre valeur ajoutée.
Et puis, très honnêtement, pour les médias mainstream, c'est audible de la part du consultant, ça l'est pas du journaliste. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a essayé de pousser des nouvelles métriques, les XG, etc. On a essayé de le vendre à l'audience en utilisant les journalistes. Ça a jamais marché. Et le jour où les XG ont vraiment décollé dans les médias en Angleterre, bien avant d'arriver en France, c'est avec la BBC. On allait voir Alan Shearer, qui était leur consultant sur Match of the Day, le mec qui nous reçoit, etc. On lui explique les XG.
C'est Alan Shearer ou Gary Neville Gary Lineker.
Non, Gary Lineker, il présente.
Ah ouais, d'accord.
Et Alan Shearer, c'est le consultant. Okay. Et en gros, Alan Shearer, il a dit, ouais, en gros, c'est de la merde votre truc. Moi, je sais si je suis fort ou pas, jusqu'à ce qu'on lui montre ses XG.
okay. et que ça le mettait en valeur. Et finalement, il a pris possession du truc, il a commencé à l'utiliser après chaque résumé, et ça a pété, et Sky Sport l'a repris. Donc, si tu veux, dans les médias mainstream aujourd'hui, parce que le rôle consultant journaliste est bien défini, le canal pour faire adhérer l'audience à des choses plus fines, plus tactiques, c'est le consultant. Et l'association est normale, c'est parce qu'il a été sur le terrain. Et je le dissocie complètement ce que tu fais sur YouTube ou ce que les gens font sur Twitter, où c'est encore une audience qui est différente, et c'est un ton, et c'est une capacité d'être proche de l'audience qui est complètement différente. Mais je suis convaincu que le véhicule du média mainstream sur tout ce qui est pointu, c'est le consultant. Il y a maintenant une influence des réseaux sociaux, et encore une fois, je ne suis pas sûr que YouTube soit un réseau social, hein, mais en tout cas, les nouveaux médias peuvent avoir de l'influence sur ce qui se passe dans la vraie vie, les conséquences d'un tweet, les conséquences d'un post Instagram, d'une photo. Il y a pléthore d'exemples. Est-ce que toi, tu as une de tes vidéos un jour qui a créé un buzz particulier, qui a une conséquence sur le monde du foot? Est-ce que tu as un souvenir comme ça?
Je sais pas, peut-être pas particulièrement, mais c'est vrai que généralement chaque été, je fais des vidéos mercato, ouais. Le joueur que tel club doit recruter, ce genre de choses. Et alors on m'a rapporté que plusieurs avaient été vus en haute instance, c'est notamment vrai. Au Paris Saint-Germain,
d'accord.
sur le mercato idéal du PSG. Genre d'accord. Nasser l'a vu, son chauffeur lui a donné, etc. Ouais. Bon, après visiblement ça n'a pas orienté le recrutement.
T'avais soumis des noms.
Ouais, je.
C'était quoi les noms?
À l'époque, je me souviens, j'avais parlé de Timothy
Messi.
Castagne.
Ouais.
Qui joue?
Maintenant, il joue à Leicester, mais à l'époque, il joue à l'Atalanta. Non, c'est là. Ouais, c'est
non,
ça.
Non, c'est ça.
C'est ça. Et c'était, je pense, c'était avant que l'Atalanta fasse sa belle saison, vraiment, ouais. qu'il a solidifié en Europe. Mais il avait de super stats Paris avait vraiment besoin de deux latéraux, à gauche comme à droite. Lui ouais. pouvait faire les deux, mais encore plus à droite à cette époque. Bref, ça n'a pas vraiment eu d'impact parce qu'ils ne l'ont pas recruté. Mais en tout cas, on l'a plus vu dans la presse parfois, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a certains noms que j'avais proposés qu'après, tu pouvais plus retrouver dans la presse. Je dis pas la presse mainstream, mais tu vois, genre une page internet, pas très machin, pouvait davantage sortir « Ah, David Neres pour Lyon, machin. » Apparemment, il y a des... Enfin, voilà, mais c'est pas un vrai impact, ça. C'est, okay. c'est juste ouais, du bruit en plus.
T'as dit Messi au PSG, il y a quoi, il y a 2-3 mois, et je l'ai suivi. C'est vrai, j'avais dit ça.
Blague à part, et je pense que d'ailleurs ça pourra faire l'objet d'un autre épisode dans ce lot, mais la manière dont les rumeurs de transfert et l'industrie autour de la rumeur de transfert fonctionne, c'est effectivement assez intéressant. Et des fois, ça part d'analyse. Hein. Comme ça, j'ai pas d'exemple.
Moi, si je peux aussi,
Maxime, c'est... il rigole parce qu'il anticipe. Je ne vais pas raconter l'histoire à laquelle tu penses. J'ai déjà assez à raconter, mais ça peut partir de ça, une histoire de transfert.
Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que. Effectivement, il y a des noms qui fuitent généralement, ça a toujours fonctionné comme ça, sauf que c'était surtout des agents qui balançaient,
ouais,
qui vendaient
les
joueurs. Sauf que toi, dans ton analyse, tu expliques pourquoi ce serait intéressant. Donc c'est totalement différent, c'est comme un scout, tu t'es transformé en scout.
Ouais, et surtout, je ne prends pas 5% sur le transfert, malheureusement. Donc.
Ouais, ah, tu ne prends pas 5%, merde, d'accord. Non, mais c'est ça qui fait la différence.
Alternative Football.
T'as déjà eu, toi, des demandes? T'as déjà été approché par des agents pour mettre en valeur un mec dans une vidéo? Non.
Non.
Ou de clubs, d'ailleurs. Enfin, tu vois, est-ce que t'as déjà des clubs qui t'ont approché? Pas nécessairement. Non. Enfin, tu vois, ma question apparaît hyper insidieuse, genre, ouais, ils essaient de te manipuler pour... Non, est-ce que t'as aussi eu des clubs qui t'ont approché pour bosser avec toi?
Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais non. Non, je pense que... Alors, si je dois faire une sorte de... review un peu objectif sur mon travail, je pense qu'il est... riche informationnellement, divertissant, mais c'est pas non plus du niveau d'un analyste tactique qui mm-hmm. consacre 16 heures sur 24 par jour à ça. Ouais, c'est je connais plein de gars qui sont tactiquement et techniquement plus fins dans leur regard. Moi, je dirais que je suis assez complet, je fais un peu de tout, tu vois, c'est il y a de la richesse informationnelle, mais pas que, il y a aussi d'autres choses. Donc, je sais pas si je serais très légitime à bosser pour un club. Alors, pourquoi pas, on peut tenter, mais voilà, je pense qu'il y a encore un petit gap avec ce niveau d'exigence-là. Et je sais même pas si c'est quelque chose que je rechercherais objectivement, parce que disons que le côté technique, terrain, m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il doit être à la base de toutes les réflexions, parce que c'est là qu'il y a le plus d'histoire, tu vois. Mais le foot, ça reste une sorte de collection et de, d'entremêlage d'histoire, tu vois. C'est le fameux feuilleton pour les mecs, tu vois. Genre,
t'as un côté narration qui voilà, est dans qui le foot, énorme. Qui est énorme.
Et, sans, et t'enlèves ça, t'enlèves une, genre 90% de l'intérêt. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'une grosse partie de la narration, elle peut venir du jeu et du terrain, parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter déjà à partir de ça. Mais je suis quand même très attaché à l'aspect narratif et... Pour moi, le foot, c'est à la fois tout ce terrain, mais c'est vraiment c'est mon feuilleton préféré. Et si tu travailles vraiment dans une cellule de scouting, t'es pas vraiment dans la narration pure, t'es dans le 100% de l'évaluation technique.
Tu, au contraire, tu dois t'en
parfois
départir.
Parfois, tu brises des histoires.
Et tu dois pas être influencé par ça, ça fait partie de leur métier. Tu parlais de review de ton métier, ça m'amène une autre question. C'est quoi l'évolution de ton métier? Où est-ce que tu emmènes ça? Où est-ce que ça va? On a compris ton attachement à la plateforme et au fait que c'est le bon endroit aujourd'hui. Le traitement du foot de demain, tel que tu le vois, c'est quoi?
J'ai pas de réflexion là-dessus. Honnêtement, je suis plus carpe diem. Je kiffe ce que je fais en ce moment. Je veux que ça dure le plus longtemps possible. Donc, il n'y a pas d'énorme réflexion sur où je veux emmener la chaîne. Il n'y a pas de grosse ambition. Moi, j'adore le foot. J'adore ce que je fais. Mais je suis conscient aussi qu'en vouloir toujours plus et en demander toujours plus de sa carrière, de son existence, ce n'est pas nécessairement la meilleure manière d'être heureux. Donc, moi, je suis très content de ce que je fais. Peut-être qu'un axe de développement, c'est réussir à le faire en un peu moins de temps pour avoir encore un peu plus de temps pour faire d'autres choses que je kiffe. Et voilà, si tu peux faire ça pendant, peut-être il me reste 50 ans, on croise les doigts, voilà, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc après, peut-être que le paysage va changer de telle ou telle manière, qu'il faudra faire quelque chose différemment. Mais mon idée par rapport à ça, ce sera que le temps venu, je pourrais m'adapter à ce changement d'écosystème. Et on verra à quoi ça ressemblera. Mais c'est marrant parce que cette question, on me la pose tout le
J'imagine,
temps, à quoi va ressembler le futur. Et je sens que je ne vais pas être celui qui va impulser nécessairement ce futur, tu vois.
D'accord.
Je serais assez content de le suivre, de voir quelles sont les différentes choses qu'on peut faire, mais j'ai pas une ambition personnelle de révolutionner cet écosystème.
De mettre la pression à dire c'est moi la locomotive, c'est à moi de le changer.
Ouais, je m'adapterai et je kifferai, quoi.
Ça a beaucoup plu, Edouard, ta réponse. Je me trompe, hein ?
Faut être heureux, quoi.
Ouais, parce que quand on a posé la question, enfin, quand on a écrit la question, j'avais la réponse. Enfin, moi, ma réponse, c'est la même. C'est-à-dire, on prédit pas un futur, quoi.
Ouais.
Ça se crée. Et donc, non mais c'est pour
alors,
ça, tout
ça,
ce qu'il dit, franchement,
ça,
bingo quoi.
Kamel,
et
si
à 27
tu peux
ans, Dieu,
le garder,
ans, bravo.
L'isoler pour le petit teaser.
Et c'est pas étonnant, son cheminement, tout ce qu'il a dit, c'est pas étonnant quand t'as un leitmotiv comme ça, c'est pas surprenant.
Je pense que ça vient et ça se construit pas mal à travers ce qui fait le moteur de cette activité, c'est que t'es tout le temps, t'es souvent seul, tu vois. Donc t'as pas mal de temps pour réfléchir sur ce que... Comment est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Et clairement, ce qui me rend heureux, c'est de me lever. Par exemple, ce matin, je me suis levé. Ok, j'ai commencé à travailler sur ma vidéo. J'étais tranquille, seul devant mon ordinateur. J'avais rien, pas de message, pas de sollicitation. Je faisais ce que je kiffais. Là, ensuite, on a ce rendez-vous. Et puis après, je vais rentrer, je vais finir ma vidéo. Ce sera 17h.
Hein, quand t'es
j'aurai ma soirée.
C'était le summum quand même. Même si t'as pas fini encore.
C'était le moment d'interruption, mais il est très agréable.
Il est kiffant quand même.
On est venu
non,
te déranger.
Lâche-toi, hein. Agréable, c'est moyen, c'est neutre.
Et voilà, après, à 17h, j'aurai fini ma journée.
D'accord. C'est ça, en fait.
Je vais kiffer.
Ta journée type, c'est ça. C'est que tu te lèves, tu fais tes vidéos.
C'est ça.
Tu fais tes recherches. Et.
C'est ça. Recherche, écriture, enregistrement, montage. Si je peux finir ça le plus tôt possible, tant mieux.
Après, tu kiffes.
Et après, je passe du temps avec ma copine, on regarde des films, on fait notre vie, quoi. Et ça, c'est le meilleur.
Un vrai équilibre.
Ouais, grave.
Je reviens sur la narration, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et c'est, je pense, un mot-clé dans le traitement du foot. Narration, il y a fond et forme. Sur la forme, est-ce que tu travailles ta voix, le placement parce que bon, pour parler de foot, tu vois, je pense le commentaire, il y a besoin d'une tessiture assez particulière, il y a besoin de placer, de
carrément,
monter.
C'est très technique.
Edouard peut nous en parler, tu vois, parce qu'il fait maintenant du commentaire. Mais est-ce que toi, tu bosses ta voix, du coup, le rythme, le ton?
Un peu. Je pense que la difficulté sur YouTube, c'est pas tant le pur aspect technique, mais c'est simplement qu'il faut réussir à parler de manière un peu posée, tout en parlant assez fort, tu vois, parce que pour un micro, pour une caméra, si t'es juste un petit peu comme ça, etc., tu vois, genre ça va pas trop bien passer. Donc faut réussir à articuler, à projeter un petit peu, tout en étant soi-même, pas en train de crier, tu vois, genre.
Faut garder ton identité.
Un peu posé.
Ouais.
Donc ça, je dirais, c'est un peu le petit challenge qui a mis beaucoup de temps, et encore aujourd'hui, je suis pas parfait là-dessus, mais si tu regardes les vidéos d'il y a 2-3 ans, moi j'arrive pas à les regarder personnellement, parce que je trouve ça tellement bizarre, différent, tu vois, je cringe, quoi. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça va mieux. Et même encore aujourd'hui, j'essaie de travailler pour que ce soit encore plus posé, qu'il y ait encore moins de cuts. Quand je me trompe sur un truc, quand le mot il sort pas parfaitement, je garde, je laisse. Et ça devient de plus en plus brut et de moins en moins peaufiné. Avant, j'écrivais beaucoup aussi mon script. Donc, c'était plus lu. Maintenant, j'ai que des bullet points et j'improvise un peu au fur et à mesure comme ça. Donc ouais, ça, c'est plus par naturel. Rapport à la question technique. Et sinon, juste, bah, tu vois, avant de m'enregistrer, je bois un petit peu, je fais des petits... J'ouvre la bouche un peu pour que ça sorte un petit peu plus, pour que l'articulation soit plus simple. Mais je suis clairement pas le meilleur là-dessus. Je sens que si je faisais une formation vraiment d'éloquence, etc., peut-être ce serait mieux, mais peut-être on perdrait un peu en authenticité aussi.
Alternative football.
Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu regardes des trucs liés au foot?
Ouais, grave, à fond. Bah,
tu lis la presse? Quelle presse?
Je lis la presse dans une certaine mesure. Genre, je feuillette vite fait l'équipe. Maintenant, je suis plus branché anglophonie. Par exemple, The Athletic, ce genre de choses. Et puis sinon, ouais, j'écoute... des podcasts, pas tant que ça non plus, mais vu du banc, je suis un grand fan. Quasiment tous les épisodes, je les écoute. Et puis après, je lis beaucoup. Foot et non foot, mais je lis beaucoup, beaucoup de livres, je dirais. Ouais. Donc ça, c'est peut-être le... peut-être que ça, c'est quelque part un peu la petite... tu sais, que tu parlais, comment percer un peu sur YouTube, etc. Je pense que c'est d'avoir des sources d'informations qui sont différentes. Tu vois, si tu veux dire des choses différentes, mec, il faut que tu lises des choses différentes, tu vois. Et aujourd'hui, pas beaucoup de monde lit de livres. Donc souvent, quand je ressors une analyse, quelque chose à laquelle j'ai réfléchi en lisant ou un chapitre d'un bouquin, bah, personne ne l'a entendu parce que personne n'a lu ce livre, en fait. Tu vois.
Un livre sur le foot ou
un livre sur le foot.
Sur le management ou quoi que ce soit
Ouais, un peu. J'ai lu un peu de trucs de développement perso et puis sinon, plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir, d'histoire beaucoup. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin sur l'histoire du travail, History of Work, machin, qui est grave cool. Des romans, bref, un million de choses. Mais vraiment, cette idée de... avoir accès à de l'information différente pour dire des choses différentes, je pense que dur de faire plus différenciant que ça.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Et la difficulté aujourd'hui dans le traitement, et c'est un peu la déformation des chaînes d'infos, c'est qu'on prend plus le temps de la documentation et de recherche dont tu parlais, qui selon moi est essentielle. C'est-à-dire que l'info en continu n'existe pas. L'info, il y a plusieurs temps, tu as ce qui se passe, c'est une information, il faut la traiter, il faut la rendre. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, parce que les canaux dont on parlait au départ, ils sont multiples, les gens attendent du contenu, si tu es le premier à sortir le contenu, tu vas être le premier à toucher l'audience, donc il y a un sort de mérite et de retour sur ça. Et la difficulté de prendre ce recul-là, de se dire non mais je vais me documenter, je vais travailler, je vais apporter choses différentes, c'est dans un monde qui va à 100 à l'heure, c'est difficile. Donc je pense que, mais en revanche, je pense que c'est ce qui peut apporter une vraie différence.
Ah, carrément, je sais d'expérience que la plupart des personnes qui m'ont le plus marqué, pas des personnes que j'ai rencontrées, mais que j'ai lues par exemple, tu vois, qui ont écrit les bouquins que je trouve les plus extraordinaires, les plus profonds et riches, c'est des personnes qui, en tout cas une personne en particulier,
par exemple,
tu vois, Yuval Noah Harari, Sapiens, que j'avais lu il y a 3, 4, 5 ans, que j'avais trouvé, qui a totalement changé ma vision du monde.
Ouais.
Je sais que lui, 3 mois par an, il va faire une méditation seul dans les montagnes, genre un quart de son temps de vie, parce qu'il dit il faut ce temps de recul, de perspective.
Je débranche.
Et le mec, il a écrit un des bouquins les plus importants de notre période actuelle, tu vois. Donc ça veut dire pas mal de choses. Ça va totalement dans ton sens.
Merci beaucoup.
Un plaisir.
Willow, on a passé un super moment. Monsieur, si c'est quelque chose à rajouter.
RAS, franchement, continue.
Monsieur Marchand, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Satisfait? On a le pouce levé de Maxime Marchand. C'est tout ce dont on a besoin pour démarrer la journée du pompier.
Alternative football. Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.